cette rencontre première de l'après-midi, donc avec Marie Cosnay, romancière, essayiste. Ceux qui étaient là hier soir ont pu apprécier donc la beauté formelle, la beauté poétique, rythmique de son texte Cordélia la guerre, qui est son dernier roman, paru en 2015 aux éditions de l'Ogre, et qui est un texte inclassable et assez réussi dans son exceptionnalité. Voilà, Marie Cosnay donc est écrivaine. Elle a exercé un métier qui disparaît, qui n'existe plus. On peut le dire presque comme ça, à savoir professeur de lettres classiques et notamment de latin. D'ailleurs, Marie Cosnay considère que l'écrivain, l'artiste, doit s'engager dans le monde, que ça soit pour défendre l'enseignement du latin et du grec en voie de disparition dans l'éducation nationale, ce qui est un enjeu de société considérable, on peut le dire, et d'autre part, des engagements auprès des migrants, auprès de Nuit Debout, etc. Voilà, c'est sa conception de la position de l'écrivain dans la cité. Elle traduit également donc des textes classiques. Je rappellerai rapidement, par exemple, les Métamorphoses d'Ovide, ou qui sont parus chez Nous, l'éditeur Nous, en 2011, et puis également l'Énéide de Virgile, et puis d'autres textes en chantier. C'est une activité pour toi très importante et qui n'est pas du tout contradictoire avec l'engagement dans la cité. Je rappellerai rapidement quelques-uns de ses derniers livres. Donc, Villa Chagrin, qui est paru en 2006 aux éditions Verdier. À notre humanité, 2012, chez Quidam éditeur. Très beau texte pour arrière-plan la Commune de Paris. Et puis, en tout dernier lieu, donc Vie de HB, Henri Bell, Stendhal, qui vient de paraître donc aux éditions Nous, à nouveau, en 2016, qui n'est pas une biographie, qui est une espèce de rêverie, je dirais, autour de l'existence donc d'Henri Bell. Et puis enfin, donc, était paru l'an dernier Cordélia la guerre, dont ceux qui étaient là ont pu entendre quelques extraits hier soir. Marie Cosnay va présentement nous parler de Notre espérance, c'est le titre qu'elle a choisi pour son intervention de l'après-midi. Merci beaucoup à toi.
Merci. Merci beaucoup et bonjour. J'espère qu'on va m'entendre avec le vent, derrière et autour. Bon, l'année 2015 et la grosse première moitié de l'année 2016 nous ont profondément marqués. Je crois que nous y avons aperçu ce que nous savions déjà. Et ces réveils nous laissent claquer doublement. Nous prenons conscience d'un désastre et de la force de notre déni jusque-là. Nous ne voulions pas, nous avions lutté, aimé, nous avions lu, essayé de lire, essayé de penser. Nous avions même essayé de partager. Et le constat, nous étions séparés. Alors nous reprendrions des forces et aussi de l'espérance, mais pour l'heure, nous étions séparés. Est-ce que 2015, une année d'exception, 2016, un début d'année d'exception, les siècles en ont charrié des désastres. La question du mal, de sa banalité, a une longue histoire. Les désirs d'avoir, les désirs de pouvoir ont toujours provoqué de grands drames, des inégalités criantes. Et il est une sorte de pauvreté symbolique, de manque à être lié, de manque à être relié, de peur tragique de ne pas être lié et relié, qui n'a pas attendu notre 21e siècle pour trouver une sorte d'atroce consolation dans une informe et exclusive soumission à une puissance écrasante. Donc l'année 2015 et une grosse moitié de l'année 2016 ont été des années comme les autres, de ces points de vue-là. Simplement, nous les avons vécues. Et je ne crois pas à décrire une expérience personnelle, simplement, si je dis qu'elles ont failli nous laisser en plan. Alors, l'anecdote personnelle qui va suivre se situe à la fin du mois de novembre 2015. Je suis invitée pour participer au festival Migrants en scène organisé par la CIMAD dans un grand théâtre près de Paris. J'ai écrit le texte d'un spectacle, mis en scène par Caroline Panzera, spectacle qui s'appelle Bouc de là. Il est joué ce mois de novembre 2015 dans ce grand théâtre près de Paris. Le texte, travaillé par les comédiens et la metteur en scène, Caroline Panzera, a été écrit à Athènes avant et après l'élection d'Alexis Tsipras. On ne parlait pas encore de crise des réfugiés. Avec Caroline, nous sommes rentrés dans deux des principaux camps de rétention grecs, à Amygdalesa et à Corinthe. On a vu les chiens, on a vu les grillages, les blocs où les hommes, dans les camps où nous sommes allés exclusivement des hommes, serviettes éponges sur la tête, contre le soleil, tournaient en rond. On a senti la violence de l'ennui et de l'attente, bien avant la crise des réfugiés, les migrants arrivés et arrêtés en Grèce, vivaient une rétention illimitée dans la plus grande indifférence européenne, qui avait pourtant édité en 2008 une circulaire qui fixait la durée maximale de rétention à 18 mois. On a vu les masques protecteurs que portaient les policiers par crainte des maladies. On a entendu les cris « Cherchez mon fils, cherchez mon frère, il est dans un autre camp, on ne sait pas où ». On a parlé à ceux à qui on nous a laissé parler. Certains prisonniers étaient là depuis 2 ans, ils n'avaient jamais vu un juge, ils vivaient sans activité ni projet. Les tentatives de suicide étaient réussies parfois. Les grèves de la faim n'intéressaient personne. Bon, on fabriquait du désastre. En mai 2015, de la Syrie à la Turquie, s'il fallait payer un passeur, on payait 200 euros. En mai 2016, les prix ont grimpé à 1000 euros. Inflation due aux politiques européennes et aux accords avec la Turquie. Quand on ne peut pas rester, on s'en va. Et quand il est dangereux et difficile de passer, on passe, pourtant. Il y a des allants qu'on n'arrête pas, on vend un rein s'il le faut. On se fait tirer dessus en Turquie, on prend une embarcation peu sûre. Après la représentation de Bouc de là, dans ce théâtre près de Paris, dans le cadre de Migrants en scène, la CIMAD et le GISTI avaient prévu un débat auquel j'ai participé sur les conditions de l'accueil ou du non-accueil en Europe de ceux que médiatiquement, depuis peu, on appelait les réfugiés. Et on a vite compris, alors, qu'en cette fin novembre, une semaine après les attentats de Paris, les responsables du théâtre avaient peur. Les responsables du théâtre avaient peur, ils le disaient avant et ils l'ont dit après la représentation. Avant, ils ont dit. Si vous entendez des coups de feu, pensez que nous sommes là pour veiller sur vous. Comme nous, nous pensons que vous êtes là pour veiller sur nous. La peur des coups de feu, une peur de temps de guerre, personne n'en avait l'habitude parmi nous. Après, cette peur inhabituelle des coups de feu s'est dans l'espace du théâtre changée en une autre peur. Une peur peut-être plus facile à propager. Nous étions dans un lieu protégé, un théâtre, invités à informer un public attentif sur les systèmes d'accueil ou de non-accueil en France des exilés. Et alors, soudain, les peurs se sont exprimées dans toute leur amertume. Nous n'avions pas été assez prudents. Nous n'avions pas été assez républicains. Nous n'avions pas été assez français. Pas assez anticommunautaristes. Pas assez laïcs. Pas assez protecteurs. Nous avions accueilli. Nous avions trop accueilli. Et les nouveaux exilés qui étaient sur les routes et demandaient à être accueillis maintenant allaient nous apporter quoi ? L'islam radical, bien sûr. Alors c'était un drôle de renversement de situation. Nous essayions de dire que les terroristes étaient français et belges, nés dans les banlieues de 2 capitales européennes, et nous avons été traités de militants radicaux, de perroquets, dans ce théâtre près de Paris. Nous n'avons pas été entendus, j'en ai été malade, j'ai quitté le théâtre, j'ai quitté abasourdi Paris, je suis rentrée abasourdi à Bayonne. Nous vivons un grand écart entre l'espérance conservée par habitude et par chance en nos menues constructions de vie. Tout est libre, tout est à inventer, quel enthousiasme va avec. Et ce sentiment qu'accroît peut-être la fatigue Il y a urgence. Urgence politique, or nous n'y répondons pas. Nous qui voudrions tant y répondre. Nous parlons dans le désert, submergés, noyés dans les eaux des dégels, nous ne sommes pas de force. Et nos enfants, comment les confier à ce monde bête, ce monde terrorisé où les lieux vivables se réduisent comme peau de chagrin, où certains qui travaillent doivent demander par mail et à l'avance la permission de quitter leur poste pour aller aux toilettes, tant leur temps est compté, et où ceux qui ne travaillent pas, considérés comme les gros perdants du seul système imaginé, sont les objets fétiches du discours, discours de plus en plus décalé et de plus en plus creux, vantant la reprise, la relance, la croissance, destiné à s'alimenter lui-même, à tourner en rond, à nous faire tourner en rond, à nous faire perdre de vue nos imaginations puissantes, c'est-à-dire nos facultés politiques. Et les lois n'ont rien inventé au discours, adopté par la force, quand elles rencontrent une opposition populaire ou parlementaire. La génération qui est la nôtre, ou à peu près, s'est demandé en 2015-2016 si elle n'avait pas crié ou ne criait pas dans le désert, si les plus subtils d'entre ceux qui crient le mieux, les plus inventifs, n'avaient pas crié dans le désert, ou plutôt le désert n'est pas désert, mais on crie pour des sourds, des assourdis, ou encore on est sans bouche, alors nos cris. Il y a eu ce découragement. Bien sûr, les plus jeunes se sont mis debout, les moins jeunes sont restés debout. Le désert était peuplé, mais les cris qu'on poussait, les images qu'on dessinait, si on ne les adressait pourtant ni à des aveugles ni à des sourds, empruntaient des véhicules tout fragiles, nos voix, des manifestations interdites d'ailleurs, des tables rondes, nos textes, pétitions, appels à la raison. Tandis que le code du travail était démagogiquement devant millions de téléspectateurs pesés. Par un présentateur, pesé, oui. Un code fait de lutte, de larmes et d'histoire, réduit à son poids, 1,5 kg, à la télé, à sa lourdeur, à sa soi-disant difficulté, à un chiffre, son poids. Et le MEDEF tweetait, en faisant une sorte de théorème bien fantaisiste, que plus le code est lourd, plus grand le nombre de chômeurs. Bref, une image rapide, un chiffre destiné aux imbéciles que nous sommes supposés être, imbécile, assourdi. Et la surdité, on y croirait presque, tellement tout semble glisser. Les mots et les actes n'auraient aucune réalité, aucun effet. Un parti réinvestit Patrick Balkany dans sa circonscription des Hauts-de-Seine après 4 mises en examen pour fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, corruption passive et déclaration mensongère. Et réinvestit Georges Tron, bien qu'il soit renvoyé aux assises pour viol en réunion. Mise en examen n'a aucun effet. Viol en réunion n'a aucun effet. COP21 n'a aucun effet. Alors nous nous sentons tout courageux que nous étions et sommes toujours debout, dessaisis de l'expérience. Nos bouches remuées dans des airs étouffants, les images tentaient de le faire aussi. Nous nous souvenons de l'image de ce petit garçon mort sur une plage grecque. La photo était pathétique. Elle joignait des traits inconciliables, la plage, le petit corps, les détails, les chaussures, et la mort, l'abandon, le tout du soin qu'on prend de l'autre, de quelqu'un, et le tout de la vie qui démarre, et son brusque arrêt, l'absurde, dans une posture déshumanisée, on ne voit pas le visage. Ces deux moments, le début et la fin, réunis sur l'image. Le petit garçon avait un prénom, une histoire. Il n'était pas si étrange que ça, que cette image crée de l'émotion. L'émotion, étymologiquement, dit le mouvement, mais psychiquement aussi, elle dit le mouvement. Une émotion, par définition, ne peut pas être figée. Une émotion figée n'est pas une émotion. Le mouvement que donne l'image nous change, nous bouleverse. En ce cas, l'élan qu'a donné l'émotion a été de refuser, un moment, ce qui se passait en notre nom. Nous étions, ou nous pouvions être, en certaines circonstances, des êtres moraux, l'image et l'émotion nous le rappelaient. Günther Anders, qu'on interrogeait dans les années 70 sur ce qu'on appelait son moralisme, répond « J'ai été envoyé un an avant la fin de la Première Guerre mondiale en France où j'ai vu déconcerter les premiers soldats estropiés et où j'ai été, en grinçant les dents, témoin des traitements humiliants infligés aux populations civiles. Que sous la pression de telles circonstances, on devienne moraliste, il n'y a rien là de vraiment étonnant. La photo du petit garçon a fait bouger concrètement les choses, puisque, c'est vrai, de nombreuses associations ont été débordées d'appels. Des familles proposaient une chambre dans leur maison, la mettaient à disposition d'un réfugié syrien, d'une famille en exil. Et ceux qui tentaient désespérément de trouver des solutions depuis longtemps pour des familles déboutées de l'asile, par exemple, ou alors des familles non reçues en CADA, étaient soufflés et un peu débordés par le pouvoir soudain d'une image. Ce n'est pas étonnant qu'une image porteuse de vives émotions bouge les comportements et les discours. Ce n'était pas étrange ni suspect qu'un enfant, un prénom, un cas, derrière lequel des tas d'autres enfants de prénoms et de cas se profilaient, soit une porte d'accès à l'émotion, à la puissance de faire, à la puissance enthousiasmante et espérante de faire, à la faculté politique, à l'imagination. Nous étions l'autre sur l'image où nous pouvions l'être. Bien sûr, ça n'a pas marché. La puissance d'agir n'a pas été à la hauteur. Et aujourd'hui encore, un grand nombre de villages attendent de pouvoir offrir l'hospitalité à des exilés. Ils pensent possible de leur faire une place chez eux. Je connais des villageois qui se réunissent sans désespérer depuis plus d'un an, chaque semaine, tous les mercredis à 18h, pour mettre au point des projets d'accueil pérennes, en vain pour l'instant, et ils continuent malgré les lenteurs administratives. Cependant, un discours chasse un discours, une image, un événement, un autre. Le mouvement provoqué par l'émotion peut se figer en chemin. Ne restera alors qu'un souvenir d'émotion, c'est-à-dire une émotion classée, bientôt chassée et bientôt du ressentiment. On ira jusqu'à nier l'image, la réalité, l'affect. On sera cynique jusqu'au bout. L'Europe signera son traité avec la Turquie, fin de l'émotion. Parmi les terroristes suicidaires de Saint-Denis, l'un d'eux, nous dit-on, venait de Grèce et était passé par cette même plage où... Nous avons des capacités d'imagination, de mouvement, une sacrée intelligence à déployer, de l'inventivité. Mais retournons à la fin du mois de novembre 2015. Dans ce théâtre près de Paris, le festival Migrants Scène nous recevait. Nous avons été traités de militants radicaux et de perroquets. J'ai quitté le théâtre, et puis j'ai quitté Paris, abasourdi, puis je suis rentrée à Bayonne. À Bayonne, très vite après mon retour, à quelqu'un à qui je racontais ce moment, quelqu'un donc m'a dit: mais tu sais, tu es au courant de ce qui se passe à Baïgorry ? Je n'étais pas au courant. Baïgorry est un petit village de l'intérieur du Pays Basque. Je suis allée à une réunion d'information à Baïgorry. Les habitants du village avaient ouvert le VVF du village à 50 personnes venues d'Érythrée, du Soudan, d'Iran, du Kurdistan et d'Afghanistan. 50 garçons qui étaient passés par les camps de Libye, par l'Italie. Leur voyage se comptait en années. Parfois étaient arrivés en Angleterre, en avaient été expulsés, étaient revenus, s'étaient retrouvés à Calais, point d'étranglement où on ne peut pas tellement rester et d'où on ne peut pas partir. 50 garçons donc allaient trouver refuge ponctuel, parce que les voies de l'administration sont ce qu'elles sont, dans ce village de l'intérieur du Pays Basque. Personne ne savait encore comment se passerait l'aventure. La préfecture, encore animée, mais plus pour longtemps, par l'ambiance qu'avait suivi la diffusion de l'image du petit garçon mort sur la plage, tentait de mettre en place ce qu'on appelait des séjours de repos pour les jeunes gens bloqués à Calais. Aucune obligation pour eux de demander l'asile en France, c'était très important. Aucune prise d'empreinte. Au village, personne ne savait comment cela se passerait. Mais ce qu'on entendait, ils sont dehors, on a ici de quoi loger. Alors oui, bien sûr, les peurs vécues de loin, bien sûr. Mais dans le réel, comment ça marche, en vrai? Et les premiers garçons sont arrivés le 14 novembre. 40 personnes du village dont tous les membres du conseil municipal les attendaient. Il était 3 heures du matin. Le représentant de l'OFI, l'Office française à l'immigration, les attendait avec les habitants. Les garçons étaient impressionnés, ne touchaient pas au début au repas que les bénévoles avaient préparé pour eux. Puis le plus âgé d'entre eux s'est avancé, le maire du village s'est avancé, ils se sont salués et ils ont pleuré dans les bras l'un de l'autre. Un jour suivant, en un moment officiel que nous trouvions, nous bénévoles, un tout petit peu ridicule, est venu au VVF portant la galette des rois, le sous-préfet. Le sous-préfet est... Il était accompagné des institutionnels invités à chercher activement des pistes de solutions durables pour la suite. En cette occasion, dont je n'étais pas la dernière à sourire, j'ai entendu dans la bouche du directeur de la structure qui encadrait les jeunes reçus au VVF, en une occasion où il s'agissait de parler chiffres, place en CADA, place future en CADA, quelque chose, j'ai entendu le mot « ferveur ». Les bénévoles, les institutionnels, le personnel de l'hôpital de Bayonne, la sous-préfecture, disait le directeur de l'association, Aterbea, tous faisaient, autour de l'accueil de ces garçons en route, preuve de ferveur. Alors, je ne sais pas vous, mais le mot ferveur, dans le débat public, je ne l'avais pas entendu souvent. Il y a des mots qui ont des vies publiques et publicitaires, le mot laïcité, mais le mot ferveur, il a une vie très secrète. Et là, il se posait là, en cet endroit de bagarre concrète, parce qu'il s'agissait de faire en sorte que l'aventure ait pour les jeunes exilés une suite pour laquelle l'engagement de l'État était fort nécessaire. Le représentant de l'État, dont le rôle était déterminant, était présent et il entendait que lui-même et tous les bénévoles autour avaient travaillé avec ferveur. Le mot ferveur disait l'élan vécu jusque-là. Et en le disant, il nous en donnait un autre. Parce que c'est communicatif, la ferveur. Ça ne trompe pas son monde. La ferveur se vit dans la présence. Elle est le contraire de la peur. Elle est donnée par le réel, par ce qui se passe pour de bon quand nous sommes ensemble. Dans le réel qui déjoue les fantasmes. Alors, nous nous regardions. On se disait, nous travaillons avec ferveur. Nous tenions à une certaine morale. Nous trouvions que nous faisions un bon truc. Un bon truc. Comme l'a dit plus tard un conseiller municipal de Baïgorry. Un bon truc, pas si compliqué en plus. Nous avions de l'espérance et même nous avions un peu de fierté. Au mois de janvier, 2 mois plus tard, une fête est préparée dans la salle municipale par les bénévoles et les exilés. On entend le kurde, l'arabe, le tigrinya, le basque, le français et l'anglais. Antione présente en basque, traduit en français, puis traduit en anglais. Le garçon afghan qui devait traduire de l'anglais au farsi, on ne le trouve plus. Il est occupé à discuter dehors. Et soudain, tout le monde comprend qu'il se passe quelque chose. On s'installe devant les danseurs de l'aurejku, la danse d'honneur, de salut, comme on fait au Pays Basque. « Pour vous, nos amis du VVF », dit Antione. Les danseurs en tenue traditionnelle sautent, leurs pieds battent l'air. On fait honneur avec modestie, avec précision et solennité, à un groupe de personnes. C'est une danse comme les chants, une danse qui s'adresse. Soudanais, érythréens, kurdes, afghans filment l'honneur qui leur est fait sur leur téléphone portable. Tout le monde est suspendu. Puis les enfants souhaitent la bienvenue à leur tour. Une petite fille improvise a cappella un berchou, un poème, et ce que dit son berchou, accueil et nécessaire respect dû aux voyageurs. Ils sont venus pour mieux nous connaître. Qu'ils se sentent à l'aise ici, c'est notre devoir. Ils vont se faire plein d'amis, hélas. Ils en ont laissé là-bas des amis. Et certains sont partis pour toujours. Deux chanteurs kurdes se répondent ensuite. Grande mixité d'âge, des enfants de 2 ans à 17 ans, des adultes, des gens plus âgés, les amis du VVF, comme dit Antione, les bénévoles, enfin tout le monde. Il manque de la paella. Entre 300 et 500 personnes ce jour-là fêtent les cultures et les hôtes. Comment on a communiqué ? Antione, conseiller municipal, me raconte. Eh bien, on a expliqué. On a expliqué par écrit à chaque habitant comment on allait accueillir. Et on leur a rappelé ceux dans le village qui sont partis en Amérique. Comment ils ont été accueillis, eux ? Alors tout de suite, là-dessus, ceux qui protestaient s'arrêtaient. Et ceux qui protestent encore, les plus durs, et il y en a, me dit Antoine, sont ceux qui ne sont jamais allés au VVF, ceux qui ne sortent jamais, ceux qui ne croisent jamais personne sur la place, ou ceux qui n'ont pas vu les jeunes. Et quand on les voit, ces jeunes du Soudan, d'Érythrée, discuter sur la place du village, ça nous fait du bien, me dit Antoine. Ce serait notre plus belle chance, si certains voulaient rester. Antoine a continué. Même ceux qui protestent dans le village, c'est sans agressivité. Il y a une retenue, un respect. Et il y a le respect du respect. Les jeunes disent bonjour quand on les croise, ils sont très polis. Et puis, il faut que je t'explique, il y a autre chose ici. C'est une décision de la mairie. Ici, on est dans une sorte de légalisme. Et le curé s'est impliqué. À la messe de minuit, les Érythréens sont venus. Quand ils sont arrivés, des berchoularis ont improvisé pour les migrants. Ils sont dans notre monde, ils sont là. C'est vrai qu'ici, il y a de tels réseaux associatifs, dit Antoine. Et l'habitude de travailler ensemble, avec rien. Mais tu sais, ça n'empêche pas, il y a du racisme ici. On avait noté la montée du FN au cantonal. Avant, rien. En décembre, pour les régionales, le FN a baissé. Ce n'est peut-être pas lié. N'empêche, il a baissé. Donc voilà ce début de récit de ce qui s'est passé dans ce village. Et simplement un mot pour dire que ce qui s'est passé se poursuit, même si l'administration est évidemment... les jeunes ont été placés en CADA à la suite, absolument tous. Mais la plupart reviennent au village où ils ont trouvé accueil et logement, pour la plupart. Voilà, pas les 50, mais bien une dizaine. Voilà, merci beaucoup.
Merci Marie pour ta, je dirais, sainte colère, à l'instar du vent, mais tu as résisté au vent. C'est peut-être ton message, il faut résister à toutes les sirènes de temps présent.